Bienvenue sur Double Flash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, un épisode spécial été. Alors, on imagine peut-être que vous êtes sur votre transat au bord de la piscine ou sur la plage, ou peut-être encore au boulot parce que vous n'êtes pas forcément de vacances. Mais voilà, on est heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex, comment ça va?
Salut Patrick, salut tout le monde. Bah écoute, moi je suis encore au boulot, tu vois, je n'ai pas encore parti en vacances. Ce sera plus tard quand tout le monde sera parti, on partira à ce moment-là. En tout cas, on est encore là pour l'été avec un épisode summer où on va parler d'astro, on va parler de drag and drop, on va parler de masques qu'on peut mettre sur des inputs de manière assez sympa, on va parler de scripts qu'on peut charger rapidement, d'optimisation de dépendance, de Blackbone et d'un nouveau navigateur. Je suis complètement super hypé par ça. Et là, en fait, c'est pas un nouveau nouveau qui est tout basé sur Chrome et tout ça. Là, c'est un vrai truc qui part de scratch.
C'est un vrai truc, quoi. C'est pas une copie de Chrome.
On va en parler tout à l'heure. Donc, voilà un peu le programme de cet épisode news.
Ouais, on va commencer par remercier les sponsors, puisqu'on a un nouveau sponsor depuis la semaine dernière, je crois.
Merci.
Merci à toutes les personnes qui nous aident. Ils sont 9. Si vous allez sur la page du site double/.dev, dans la rubrique soutenir, en fait, vous avez toutes les personnes qui nous soutiennent. Ils sont 9 aujourd'hui. Donc, Valentin, c'est le dernier qui s'est rajouté à la liste. Donc, merci Valentin. Merci aux autres aussi qui sont là depuis un petit moment. Il y en a certains qui sont là depuis le début. Donc, c'est cool. Ça nous aide. Merci. Voilà.
Top.
Et je voulais revenir aussi sur les commentaires. Donc, on a eu quelques commentaires aussi sur l'épisode, le LiveWire Workshop, donc qui est dispo que sur YouTube. Donc, si vous n'avez pas encore vu, bah, il y a un workshop sur YouTube, sur la chaîne YouTube / sur LiveWire, de la Ravel LiveWire. Donc, voilà, on a différents retours. Donc, il y en a qui nous parlaient d'UnpolyJS. UnpolyJS, c'est un système un peu équivalent à HTMX ou à... qui permet de faire du JS avec des attributs aussi, donc une librairie de plus que je connaissais pas, donc voilà, intéressant. Et puis après, pas mal de, il y en a qui parlaient aussi de LiveWire Vault aussi et de Folio. On avait déjà parlé il y a très longtemps en fait. Vault, c'est ça permet de faire des components LiveWire sur un seul fichier, un peu à la vue, tu vois, des single file components. Et Folio, c'est pareil, ça fait du routing file system. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on peut rajouter, en fait, sur le projet LiveWire. J'en ai pas parlé parce qu'en fait, généralement, il faut quand même bien maîtriser LiveWire avant de passer là-dessus. Mais voilà, il y a des choses encore en plus qu'on peut, donc, ceux qui ont vu le workshop, essayez d'aller voir la doc, il y a pas mal de trucs là-dessus. Et puis, je parlais aussi, vite fait, d'Inertia pendant le workshop. J'ai un petit peu testé, c'est intéressant. Donc, alors, Inertia, contrairement à LiveWire, est dispo sur d'autres frameworks. Voilà, donc c'est pas que sur Laravel, et ça vous permet en fait de synchroniser le back et le front, mais d'une manière hyper simplifiée, c'est-à-dire que t'as rien à faire. Voilà, ça te fait un rendu de component, mais tes data sont déjà dans le component sans que t'aies à faire une requête Ajax ou quoi que ce soit. Propre. Donc c'est assez magique. Ouais, mais on fera peut-être un workshop dessus.
Mais pour le coup, c'est parce que là, LiveWire c'était que sur l'écosystème PHP Laravel. Ouais. Là, Inertia c'est sur l'écosystème.
Sur Adonis par exemple, c'est disponible Inertia, enfin voilà. Et moi j'avais jamais testé, j'ai testé donc en ce moment je teste pas mal de trucs, je m'amuse un peu. Et c'est bluffant. C'est très bluffant parce que tu rends ton component en même temps, tu rends les data à l'intérieur de ce component et tu n'as pas besoin en fait tes data sont déjà dispo. Tu peux les utiliser, ça c'est passé si tu fais du vue par exemple, c'est passé sous forme de props. Bah sur React ça doit être pareil. Et tu les utilises directement, tu n'as pas besoin de faire un fetch ou quoi que ce soit. Donc c'est bluffant parce que du coup, en back, tu utilises Adonis ou Laravel, tout ce qui est base de données, tout ça, etc. Et en front, tu mets du React, du Vue, tout ce que tu veux et ça fonctionne. Quoi. C'est pas mal. Donc voilà.
Cool. Mmh. Et on garde ça sous le coude et peut-être un petit workshop où on vient montrer un petit peu tout le potentiel de toute cette techno-là que tu testes. Allez, on attaque avec Astro qui a signé en fait un partenariat avec Netlify pour devenir en fait le partenaire officiel de déploiement de Astro. clairement, ils sont en train de se mettre une guerre controversielle et next, quoi. Non ?
Ouais, on a un petit peu. Ouais, c'est un peu le sentiment. Et surtout, ouais, on sent vraiment que c'est. Ouais, c'est contre Vercel, quoi, clairement. Vercel à Next, et là, Netlify s'associe vraiment à Astro pour avoir vraiment le système qui marche bien sur la plateforme Netlify. Donc, ils vont optimiser tout ce qui est build, etc. Enfin, voilà, il y aura vraiment des optimisations pour Astro. Donc, c'est une bonne nouvelle, et notamment avec le serveur Island qui ont été annoncés, là. Et je sais que j'ai vu passer aussi, alors je ne sais pas si ça en parle dans les articles là, mais ils ont refait aussi une partie de certaines parties de Netlify avec Astro. Je crois qu'il y a la doc et des trucs comme ça en fait, ou le site, je ne sais plus.
Ah, mais, tu veux dire que Netlify utilise aussi déjà Astro sur leur système
en interne, ouais. Okay. Ouais, ils ont refait des éléments internes, enfin des sites, tout ça avec Astro. Donc là, ils sont vraiment partis. Alors, j'espère qu'ils vont pas racheter Astro, parce que sinon, ça va faire du Gatsby-like. Mais
ouais. Après, après, pour l'instant, ils étaient, enfin, ce qu'ils annoncent, en tout cas, c'est clairement quelque chose de partenariat. Donc, ils le subventionnent en mode, voilà, ils donnent, je sais pas combien. Par mois pour que ça tourne et pour faire entretenir, on va dire pour alimenter en termes de thunes, mais il n'y a pas de. C'est pas clairement annoncé de projet de rachat pour que Astro devienne internalisé Astro, quoi.
Okay. Non, surtout pas, j'espère pas. Et donc c'est cool. Ils ont fait une Astro Week. Netlify, où ils annonçaient tous les jours, ils faisaient une annonce en fait. Donc il y avait tous les jours une annonce avec un article de blog, etc. Donc il y avait 5 jours. Donc voilà, ils parlent de tout. Pourquoi Astro, ils ont été sélectionnés par. Ah voilà, c'est ça, je l'ai. En plus, c'est celle de mercredi. Pourquoi Netlify a sélectionné Astro pour son développeur hub et son signe de marketing, tu vois.
Ok.
Ouais, c'est... voilà, comme quoi ils ont vraiment. Ouais, ils sont à fond dedans, quoi.
Donc, nice. Bon. Et toujours dans cette week où ils annonçaient en fait une nouvelle fonctionnalité par semaine, ouais. c'est devenu un peu le standard de tous les derniers meta framework disponibles. C'est le rendu serveur, hein, des composants serveurs, des serveurs components. Et là, en fait, dans l'écosystème Astro, ça s'appelle des islands. Et donc là, c'est des serveurs island. Donc, c'est des serveurs qui vont être des composants qui vont être rendus côté serveur. Donc, on vient pousser ce système-là de mix entre du SSR, du SPA, du statique et tout ça, mais à la sauce Astro.
Ouais, on avait parlé dans le dernier épisode, les serveurs Island, et ben c'est déjà dispo dans la dernière version en mode expérimental, donc on peut déjà tester les serveurs Island dans la 4.12, donc voilà, c'est hyper rapide l'implémentation, donc voilà, ça peut donner une idée, j'ai vu des tests, c'est vraiment impressionnant, voilà, il y a des comparaisons entre sans et avec, où tu as la page qui est avec, elle est chargée vraiment instantanément, et après les petits bouts qui se chargent par le serveur sont chargés par la suite, un peu comme le streaming sur Next, tout ça, hein, mais c'est assez impressionnant. Et donc, bah, du coup, Netlify sera optimisé pour ça.
Bien, excellent. Voilà. Excellent. Donc, ouais. C'est toujours... Moi, je pense que je suis devenu complètement fan de Astro. Après... Je voudrais pas tout faire avec ça, tu vois, mais pour moi, un site marketing, par exemple, tu vois, une présentation d'une landing page ou de même un site statique classique, tu vois, pour moi, Astro est super, super intéressant pour ça, quoi, vraiment.
Pour moi, de plus en plus, de toute façon, on a des personnes, pareil, dans les commentaires qui sont fans d'Astro, qui nous mettent des messages. Mais clairement, aujourd'hui, Astro devient un vrai challenger à Next. Mais vraiment, puisque avec toutes ces fonctionnalités de serveur Island, tout ça, là, on a vraiment un challenger face à Next. Et ça ne m'étonnerait pas que certaines boîtes, à un moment donné, se posent la question Next ou Astro, et qu'ils partent sur Astro, parce que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de faire de l'Astro que du Next. Quoi. Clairement.
À tester, voir si le switch est possible et s'il est, il est intéressant à voir. Yes. Allez, la suite. On passe sur une petite librairie qui nous permet en fait de faire du drag and drop, mais du drag and swap. En fait, ce n'est pas tellement du drag and drop. Ça s'appelle Swappy. Donc, l'idée, c'est de permuter. Clairement, pour ceux qui ne sont pas qui nous écoutent, on a deux blocs et on va pouvoir intervertir ce bloc avec du drag and drop. Et tout simplement, c'est les deux éléments vont venir s'interchanger. C'est super fluide, c'est super élégant, c'est propre et c'est en plus totalement agnostique de framework. Donc, ça marche avec React, Vue, Svelte, Solid, Angular, Quick et Alpine.
Et c'est hyper simple à mettre en place. Il y a quelques lignes de code. Et j'ai jamais vu un truc aussi simple. D'ailleurs, on avait parlé d'une autre librairie pour faire du drag and drop qui était beaucoup plus complexe à mettre en place, mais qui était assez complète. Alors celle-là, tu fais quelques lignes de code et c'est installé. Après, tu as des événements qui t'informent de l'ordre qui a été changé. Et puis, tu as sauvé ça dans une base ou n'importe quoi.
C'est... Alors après, c'est pas spécialement... parce que du drag and drop, tu vas pouvoir faire du reorder. Donc là, potentiellement, ça peut être intéressant. Là, pour le coup, c'est vraiment de l'interchangeabilité. Tu viens changer, tu viens permuter l'un avec l'autre. Est-ce que c'est substituable à des librairies de drag and drop assez poussées où tu vas pouvoir en fait définir des zones sur lesquelles tu peux déposer des choses, tout ça? Peut-être pas. Oui. Par contre, moi, je vois un usage typique sur des créations de dashboards où clairement en fait on va pouvoir donner la main à l'utilisateur pour customiser son dashboard. Et ça, waouh, ça c'est super, ça peut être super stylé quoi. Vraiment vraiment super propre et assez facile à mettre en place en plus quoi. Donc
c'est hyper simple hein, t'as vu. En plus tu mets des attributs sur les éléments HTML. T'as pas grand chose à faire pour l'installer quoi.
Propre. Surprenant. Très très propre. Si vous testez, dites-le nous sur ce que vous faites avec ça et comment vous avez implémenté ce truc parce que ça peut être vraiment super super classe. Un autre truc qui peut être super classe mais super chiant à faire aussi, c'est d'appliquer des masques sur des inputs. On connaît tous, par exemple, si on doit mettre un numéro de carte bleue ou un numéro de téléphone sur un champ input, ça peut vite être compliqué si on veut en fait formater ces informations-là. C'est pour ça qu'il existe des masques qu'on va appliquer sur ces inputs. Par contre, ces masques vont marcher plutôt plus ou moins bien, vont être plus ou moins bien intégrés. Et là, en fait, il y a une librairie qui s'appelle Mask Étoile, mais je ne sais pas si c'est Mask Étoile ou si c'est...
Masca, en fait, non ?
C'est Masca. Ouais, Masca.
Je sais pas pourquoi le A...
Ouais, j'ai pas compris pourquoi sur le logo, en fait, ils ont mis autre chose. C'est Masca. Et toujours dans ce même délire, en fait, on va pouvoir en fait, écrire notre propre masque avec nos propres patterns et ça va automatiquement formater. Donc là, on a un exemple pour formater des IP ou des nombres d'argent, en fait, avec les bons espaces. Je pense au numéro de téléphone, au numéro de carte bleue, au numéro de sécu. Par exemple, un numéro de sécu français, bah, il est différent d'un autre numéro de sécu d'un autre pays ou des plaques d'immatriculation. Avoir le champ input, ça quand même a... En fait, on va dire customiser le champ input amène quand même beaucoup, beaucoup d'UX. Et c'est vachement plus facile pour l'utilisateur final voilà, de voir l'info. Quoi.
Ouais. Et puis en plus, quand tu testes un peu certains trucs, si par exemple c'est que des numéros, bah, tu ne peux pas mettre de lettres, ça te bloque de suite les lettres. Bah, voilà, c'est vraiment. C'est bien fait, ouais, c'est bien fait et ça permet justement d'éviter les erreurs, tout ça. Ça accompagne l'utilisateur. Alors, il y a déjà des masques en natif hein, sur les éléments HTML qui sont pris en charge par les browsers, mais après, quand on veut pousser un peu plus le truc, je pense que ce genre de librairie est obligatoire. Et les monnaies, tout ça, machin, il y a plein de. Voilà. Et c'est vrai qu'en fonction des pays, ouais, il y a certaines choses, les plaques d'immatriculation ne sont pas les mêmes, donc tu vois. Voilà, tu vas adapter.
C'est en fait au départ sur des choses simples, ça marche plutôt bien, c'est facile. Dès que tu commences à avoir des champs hyper spécifiques par rapport au pays, bah ouais, tout de suite c'est un peu plus compliqué. Et là, on va dire les masques,
et tout, ouais. Ouais.
Exactement, les masques traditionnels vont pas suffire. Et donc passer sur ce type de librairie là, bah ça marche plutôt bien. C'est fait en vue, en JS Vanilla. Et derrière, il y a des usages où ils nous montrent comment on peut le mettre sur Vue, sur Alpine, sur Svelte. Donc voilà, il n'est pas totalement agnostique sur tout, même si en même temps, avec du Vanilla, on peut tout faire.
Ah oui, tu peux le mettre sur React sans problème. Mm.
Donc ça, c'est plutôt propre, facile et assez intéressant. Et bah, toujours dans cette même idée d'augmenter l'UX pour que ça soit simple pour l'utilisateur, quoi.
Ouais. Cool.
Toujours dans cette idée d'expérience utilisateur sans jamais sacrifier la DX, c'est-à-dire la développeur expérience, Nuxt, en fait, vient avec un module qui s'appelle Nuxt Script, qui en fait nous permet d'injecter des scripts tiers extérieurs qui souvent en fait ont des grosses lacunes, c'est qu'ils vont nous péter la perf, quoi.
Ouais, souvent. Bah, en fait, c'est l'histoire infinie du truc, et je l'ai sur pas mal de projets où on optimise à mort, tu vois, le chargement, machin, tout ça, on réduit le poids des images et tout. Et là, derrière, t'as le marketing qui arrive avec un Google Tag et ils te mettent 50 scripts de... Non, mais c'est un truc de fou. Et là, tu te fais plomber dans les perfs. Donc, c'est le truc classique. Donc là, c'est pas mal parce que c'est très performant, en fait. Alors, je sais pas comment ils font exactement.
Non, j'avoue, j'ai pas compris exactement comment ils font, mais ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'ils optimisent sur ce temps de chargement, ils le décalent en termes de priorité, ce qui fait que tu as un First Content Full Paint, donc qui fait partie des Core Vitals et donc des indicateurs qui sont écouté par Google pour estimer la performance de ton site, à savoir que si votre site est trop lent, vous prenez du malus, c'est clair. Donc, c'est un paramètre à prendre en compte. Et surtout, en fait, c'est sur le total blocking time, ou en clair, avant que ta page soit affichée, bah, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et donc, si tu charges en iframe, là, ils ont fait des tableaux comparatifs. Sur le chargement en iframe ou via cette nouvelle manière de faire avec Nuxt Script sur une vidéo YouTube, ils sont 46 fois plus rapides.
Ouais, c'est fou. 70 millisecondes contre 3 secondes, il n'y a pas photo, quoi. Je sais pas comment, franchement, je sais pas comment ils font, mais en tout cas, ils parlent de façade, en fait. Donc, ils parlent de la façade. A priori, c'est un fake component qui s'affiche en premier jusqu'à ce que ce soit remplacé par le vrai truc, le script tiers. Donc, il y a ce mécanisme, a priori, avec du SSR. J'ai pas trop compris comment ça marche. Donc, il faudra qu'on creuse un petit peu, mais c'est assez bluffant. Et puis, il y a aussi un système de cookies. Puisque comme vous le savez, quand vous utilisez Vimeo, YouTube, tout ça, ça va vous déposer des cookies en fait via l'iframe et tout ça. Et ça, il faut le bloquer en fait. Et donc là, ils ont carrément intégré un système de cookies qui permet d'accepter ou pas le cookie. Voilà. Donc, nice. C'est tout nouveau de toute façon. Hein. C'est public preview là, donc ça vient de sortir.
Et ouais, très intéressant en termes de perf et toujours avec. On va dire la patte de chez Nuxt où ils sont très très attachés à la DX, quoi, la développeur expérience. Et donc c'est un nouvel outil dans tout le panel qu'ils ont développé. Top. En termes d'outils, on a aussi une autre solution, donc c'est PNPM pour gérer toutes les dépendances. Et en fait, sur la version 5, il y a 9.5.
9.5. Pardon.
Ouais, 9.5, merci. 9.5, il y a cette idée de catalogue qui a été mis à jour, où en fait, on vient spécifiquement expliquer en disant, OK, dans tel workspace, je vais utiliser la version de React, la 18.3, ce qui va nous éviter en fait, la version spécifique, ce qui va nous éviter en fait de sortir surtout en fait de faire des mises à jour ou dans chaque package et dans chaque applicatif en fait de faire des mises à jour. Alors on pouvait le faire avec un script install récursif dans tous les applicatifs, sauf que là en fait on va venir explicitement dire la version, et dans toutes les versions, dans tous les applicatifs et dans tous les packages, on va avoir la même version. Et donc en fait ça nous simplifie la vie mais de ma boule, parce que au moins on est sûr qu'on est toujours à jour, et surtout on a spécifié le numéro de version dans tout notre monorepo et dans tout notre workspace. Beaucoup plus facile, beaucoup plus facile
carrément. Et on peut peut-être teaser un petit peu le futur épisode. on a un épisode qui va sortir mi-août, enfin vers le 7 août à peu près, sur les monorepos. Donc ça
justement
parfaitement parler de ça, voilà.
On parlera en fait de tous les avantages, les inconvénients, pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est pas du tout intéressant, et à quel moment il faut se pencher sur du monorepo, quel problème ça solutionne. Petit teaser, tu fais bien de vendre l'épisode monorepo qui sortira début août. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, sur ce système de package de PNPM catalogue, grosse mise en avant et simplification des choses. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. On parle de backbones.
Ouais, t'as vu ça? Pour ceux qui pensaient que c'était... Alors, ça m'a fait rire parce que j'ai vu passer ce truc et j'ai dit tiens. En fait, ils ont juste fait une version pour corriger 2-3 trucs, quoi. Et donc, Backbone.js n'est pas mort, en fait. Il y a encore des versions. Il y a encore des choses qui sont mises à jour. Voilà. Donc, ceux qui ont connu Backbone.js, voilà. Le 5 février 2024, ils ont sorti une petite version, la 1.6.0, avec quelques fixes, tout ça, et quelques ajouts. Pas grand chose, mais on voit que c'est voilà, il y a toujours des corrections, des ajouts, des versions. Donc
après, je pense que ancien, hein. Ouais, c'est un projet qui est super ancien, mais je pense
2010,
que...
la première version.
Je pense qu'il doit y avoir un parc applicatif qui utilise Backbones qui n'ont pas migré sur React ou sur Angular ou sur les librairies dites modernes, tout. Et donc en fait ils sont un peu obligés de maintenir le truc. Après, je sais pas qui est derrière, s'il y a des grosses boîtes ou si c'est que la communauté.
À la base c'était un mec qui faisait ça, je me rappelle plus de son nom,
okay,
qui avait lancé ça et d'autres trucs en même temps. Et après, bon, il a laissé tomber. Je ne me rappelle plus de son nom du tout. Qui bossait, je crois, dans un média américain. Et puis, c'était pour régler des problématiques qu'il avait à l'époque. Après, évidemment, la communauté a repris tout le truc. Mais pour ma petite histoire, moi, c'est le premier projet JS. J'avais fait une formation avec Christophe Portneuve à Paris. C'était en 2015, je crois. Nice. Et le premier projet JS que j'ai fait, c'est avec Backbone.js.
Voilà,
à l'époque, avec du Node et du Backbone. Et on apprenait à faire une application, machin, tout ça. Et React commençait à peine à voir le jour. Donc, après, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, en vrai. Hein. J'ai beaucoup utilisé React. C'est un projet qui est depuis 2010, qui est toujours vivant, que vous pouvez toujours utiliser. Donc, comme quoi.
Mais est-ce que tu n'as pas un peu une pointe de nostalgie quand on parle de Backbone.js? Parce que
non,
tu vois, c'est ton premier projet. Du coup, tu as une sorte de connexion avec ce framework.
Non, du tout.
Ok,
non.
Ça va.
Non. Par contre, ouais, comme tu dis, je pense que ouais, y a certainement des vieilles applications qui doivent tourner dessus. Donc, c'est une bonne nouvelle aussi de voir que le truc est toujours mis à jour, tout ça, quoi.
Carrément. Nice. Cool. Backbone n'est pas mort.
Non.
Backbone n'est pas mort. Allez, on est méga, méga hypé par cette nouvelle, en fait, où y a une société qui s'appelle Ladybird qui annonce comme quoi ils travaillent sur un web browser totalement indépendant. Et là, moi, je suis super, super hypé quand je vois le truc. Parce que totalement indépendant, ça veut dire que derrière, c'est pas le moteur de Chrome avec toute la puissance que Chrome et que Google a mis derrière, et aussi avec toutes les, je vais pas dire les spyware, mais on va dire toutes les écoutes et toutes les, euh, tout l'écosystème Chrome. C'est super intéressant. Et surtout, en fait, il est backé par du non-profit. C'est ça, moi, qui m'alerte en mode OK, mais comment ils gagnent de l'argent, quoi. Tu vois ?
Ouais. C'est un
projet méga, méga ambitieux, quoi.
Ouais, déjà de partir de zéro, donc de refaire tout un moteur, etc. Donc, il marque, c'est un HTML viewer for the Serenity OS. Alors, j'ai pas compris en fait exactement, mais ça va marcher sur Linux, Mac OS, tout ça. Ah, pas Windows d'ailleurs, du coup, tiens, c'est marrant. Désolé. Ouais, ils ont des sponsors en fait. Ils ont des sponsors en bas, donc il y a pas mal de sponsors qui leur donnent de l'argent. Et donc, deux principaux, en platinum, je crois que c'est 100 000 dollars, on avait regardé tout à l'heure. Donc, tu as déjà 200 000 de Futo, je ne sais même pas ce que c'est Futo, et Shopify. Et après, tu as d'autres sponsors. Et donc, ils indiquent avoir quatre engineers qui travaillent à plein temps sur le navigateur. Donc, bon, ils sont, voilà.
Ils repartent, ouais, après, ils repartent de scratch. Tout est en C++. Et ils espèrent, we targeting, de sortir une première alpha début 2026.
Ouais, c'est pas... Ouais.
C'est loin. C'est loin, si tu veux. Tu vois, et moi, ce qui me fait halluciner, c'est que en fait, ils sont déjà dans la commercialisation où ils vendent le truc, tu vois, pour créer une sorte de hype où, tu vois, je sais pas si le but, en fait, c'est de créer une hype, créer l'envie, tout. OK, intéressant, tu vois, mais est-ce que ça va aller au bout? Je sais pas du tout. Tu vois,
Peut-être qu'après, s'il y a d'autres sponsors, ils pourront embaucher d'autres personnes et peut-être aller plus vite. Quoique, plus on a des développeurs, et ça, enfin, avoir plein de développeurs, ça va pas forcément plus vite que d'avoir 4 développeurs. Mais...
Ouais,
à suivre, mais en fait, été 2026, c'est dans 2 ans, hein, ça va aller vite. Hein, ce qui est intéressant, c'est un peu plus haut, il y a marqué. Qu'ils prennent aucun, ouais, comme tu disais, c'est from scratch, donc aucun code de aucun navigateur actuel, donc aucun moteur de Chrome, ni WebKit, ni Chromium, tout ça. Ils ont aussi marqué aucun deal avec des moteurs de recherche aussi.
Et ouais.
Ce que font la plupart, tu vois, ils gagnent de l'argent en ayant Google, tout ça, et donc à chaque fois que quelqu'un fait une recherche, ils gagnent de l'argent, comme faisait Firefox à une époque, tout ça. C'est top, je trouve. Ouais, en tout cas, je suis chaud comme la braise.
Après, éthiquement, tu vois, moi, je suis fan. Je trouve ça trop cool. Tout, c'est vraiment bien. Après, j'ai peur que le projet... En fait, j'ai peur sur la viabilité du projet.
Ah, ouais, c'est clair. On voit les difficultés actuellement de Firefox. Donc, pourtant, c'est ambitieux. Hein. Partir de zéro, c'est ambitieux.
Exactement. Et derrière, tu vois, le taux de pénétration, après, comment tu vas... Ils vont gérer toutes les mises à jour, tout. Parce que, OK, on est un peu méchant contre Chrome et tout ça, mais mine de rien, ça nous facilite la vie de ma boule. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on n'a pas à gérer toutes ces multi-plateformes, enfin, ces multi-navigateurs. Et donc, ça nous facilite la vie quand même pas mal. Et tous ces standards, par contre, tous ces standards-là sont dictés par Google, pour faire clair. Tu vois.
Ah ouais. Bah oui, Google fait ce qu'il veut. Et puis là, tu as vu encore l'histoire des cookies tiers qu'ils n'arrivent toujours pas à abandonner tout ça. Donc, on voit qu'il y a vraiment quand même un problème de privacy au niveau de Chrome, hein, c'est clair. Donc, non, ça peut être bien, de toute façon, un nouveau navigateur pour... alors, c'est dans 2 ans, hein, mais ça va secouer un peu le cocotier, peut-être challenger un petit peu Chrome, et puis, peut-être... alors, ça prendra du temps, hein, avant qu'ils prennent des parts de marché, tout ça, à mon avis.
Ouais, surtout on est si très, pas très, sur Windows, très, très, très loin. On est très,
ouais,
très loin.
Pas sur Windows, ça va être très, très long, mais bon, après...
Tu vois, j'ai un peu le sentiment qu'on part sur un truc un peu comme Opera, quoi, tu vois, pour... non, mais un truc un peu pour... pas pour initier, mais tu vois, un peu des mecs qui veulent faire à part, quoi. Tu vois, et ça peut être leur système à part. Ils ont un navigateur différent, soit, mais voilà, tu vois, j'ai un peu ce délire là. Enfin, ça me fait penser un peu à ça, quoi. Donc, je sais pas, on verra ce que ça dit et comment ça peut évoluer et comment ça évolue. Tu vois, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose
après? Après, tu vois, quand je crois que c'est la première fois que tu m'en avais parlé de Arc, là, tu m'as dit, oh, il y a un mec,
ouais.
un français, un navigateur et tout. Et ce jeu,
Non,
je m'étais
pas,
dit, mais
ouais.
pourquoi un navigateur? Mais qu'est-ce qu'il fait, lui et tout. Et en fait, tu vois, aujourd'hui, on utilise Arc et il est pas mal, en fait. Donc
Ouais,
finalement,
ouais.
ils ont
C'est pas
peut-être une
faux.
vision qu'on n'a pas.
Ouais, c'est exactement. Ils ont, ouais, c'est exactement ça. Après, est-ce qu'ils vont réussir à utiliser le truc, à faire le
Ouais,
truc,
après,
tu vois?
partir de zéro, refaire tout le moteur de rendu HTML et tout, ah, c'est chaud quand
Et technologiquement, déjà, un, c'est dur, mais je pense que l'enjeu derrière, il est surtout market, quoi. Tu vois, il faut vendre ce nouveau
Ouais, faut qu'ils arrivent à
navigateur, quoi.
vivre,
Tu vois,
faire tourner le truc.
tu vois, moi, je prends toujours l'exemple de ma mère. Si ma mère, elle a compris que c'est plus rapide d'utiliser Firefox ou Chrome, tu vois, et OK, bah, elle utilise Chrome. Ok, elle a déjà gagné ça, mais va lui faire migrer sur un autre. Ouah, laisse tomber, laisse tomber. Ça va être très
Ouais, les
très très très
habitudes.
dur. Tu vois, ça va être très très dur. Donc, il faut qu'il y ait une proposition de valeur de ouf, tu vois.
Ouais, il faut
Mais
vraiment qu'il soit au top,
est-ce
ouais.
que il pourra devenir mainstream basé que sur cette conviction éthique que c'est open source et ou que c'est Scratch et que c'est pas backé par des gros? Est-ce que c'est suffisant pour faire le switch et pour que les gens l'utilisent? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
On va suivre ça de près, c'est clair.
Ça,
En
c'est
tout cas, j'ai
sûr.
hâte d'être été 2026 pour le tester.
Et de toute façon, on testera ça là-dessus et on vous tiendra au courant. Petit épisode, Patrick. On peut retourner
Oui.
sur nos chaises longues, mettre nos lunettes et tout ça.
Super.
Et on vous laisse et on vous dit à très vite pour d'autres épisodes. Ciao, ciao.
Ouais, ça roule. À plus. Ciao.
Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission.